Frères et sœurs, les amis, nous voici en ce dimanche deuxième du temps ordinaire, en face d'un texte que nous connaissons par cœur, les noces de Cana. Je ne vais donc pas m'y attarder. Je veux simplement rappeler que c'est un des premiers actes ministériels, si je puis dire, de l'activité du Christ. Qu'ensuite, elle préfigure les noces de l'agneau, c'est-à-dire le mystère de sa mort et de sa résurrection qui va sceller le mystère de notre rédemption. Je veux simplement rappeler, car cela me paraît important, car on a beaucoup épilogué là-dessus, sur l'échange entre la Vierge Marie ici présente aux noces de Cana et la personnalité du Christ, lorsque il va, de manière apparemment surprenante, dire « Femme, que me veux-tu ?» Il faut revenir au texte grec qui est plutôt celui-ci. « Qu'y a-t-il pour toi et pour moi ?» Autrement dit, la finalité de ma mission, tu ne la connais pas. C'est ce qu'il dit à sa mère. Et le Christ, s'il la connaît au fond de son cœur, il va progressivement en prendre conscience, de manière pleinement homme. Et il a dû grandir peu à peu, comme chacun de nous, dans la découverte de sa mission. Autrement dit, qu'y a-t-il pour toi et pour moi ? Tu ne connais pas ma mission et moi je suis en train de la développer dans mon cœur, alors qu'elle n'est pas encore, évidemment, terminée. Donc je voudrais m'arrêter sur la première lecture qui est claire, celle du prophète Isaïe, qui éclaire parfaitement la lecture de l'Évangile. Quelle belle déclaration d'amour, pourrions-nous dire, de la part du prophète, car c'en est véritablement une. Un fiancé n'en dirait pas plus à sa bien-aimée. La beauté du vocabulaire, la poésie qui émane bien évidemment du texte, même si l'apogée, j'allais dire, de la déclaration d'amour de Dieu à l'égard de l'humanité, c'est le très beau livre du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. Alors, ce texte ne tarit pas de paroles aussi belle pour exprimer son amour, je ne me tairai pas. Et je trouve ça très beau, dit-il. J'allais dire, comme toutes les fiancées du monde, je t'aime à la folie. Et bien évidemment, cela nous pose la question, qui est ce fiancé? Nous l'avons tous compris, ce fiancé, c'est Dieu. Alors il est important de savoir qu'au début de la révélation biblique, les premiers textes de l'Ancien Testament n'emploie pas du tout ce langage. Le langage est beaucoup plus en retenue, si je puis dire, pour la bonne et simple raison que la notion de monothéisme, c'est-à-dire d'un Dieu unique, alors qu'on adorait plusieurs dieux, va se faire très lentement. C'est le prophète Osée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui est le premier à comparer le peuple d'Israël à une épouse, et il traitait d'adultère les infidélités du peuple, c'est-à-dire ses retombées dans l'idolâtrie, tout simplement. Donc ça, c'est un simple rappel historique. Alors, pour revenir à notre texte d'aujourd'hui, j'allais dire que l'un des passe-temps préférés du bien-aimé, c'est de donner des noms nouveaux à sa bien-aimée. Alors, nous savons l'importance du nom, voire du prénom, dans les relations humaines. Quelqu'un ou quelque chose que je ne sais pas nommer, évidemment, n'existe pas pour moi. Donc, savoir nommer quelqu'un, c'est très important. D'où l'importance, hein, une fois de plus, je vous le rappelle avec amitié et respect, d'où l'importance du choix du prénom que l'on va donner au baptême. Alors, la Sainte Écriture traduit cette remarque que je suis en train de vous faire sur le fait de donner un nom ou un prénom de manière assez importante. Pourquoi ? Parce que le prénom, le nom révèle quelque part, comme on dit, Aujourd'hui, le mystère, entre guillemets, de la personne, son être profond, sa vocation, éventuellement sa mission, quand parfois on ne donne pas des surnoms, on le surnomme. Hein. Par exemple, l'ange annonçant la naissance du Christ précise aussitôt que son nom veut dire Dieu sauve, c'est-à-dire que cet enfant qui est là, que nous venons de fêter à Noël, qui porte ce nom-là, sauvera l'humanité au nom de Dieu. Et parfois, Dieu donne, nous le savons, un nom nouveau. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. Jacob devient Israël. Et Simon devient Pierre. On pourrait ainsi continuer à énumérer cette transformation du nom qui n'est pas un détail, qui montre profondément la relation d'affection et d'amour que Dieu a pour la personne en lui donnant en quelque sorte un surnom à partir du prénom ou du nom que la personne porte. Ici donc, dans ce texte, c'est Dieu qui donne des noms nouveaux à Jérusalem. La délaissée devient la préférée. La terre déserte devient mon épouse, etc., etc. Voilà. Donc, on voit bien aussi, dans le contexte d'un prophète qui donne des paroles d'encouragement et des paroles positives, des paroles constructives au peuple de l'époque qui pouvait certes avoir l'impression d'être délaissé, puisque ce chapitre 62 d'Isaïe a été écrit dans le contexte du retour de l'exil, donc le temple n'est pas encore construit. C'est donc dans ce délai, j'allais dire, d'une certaine morosité du peuple juif qui s'installe dans son cœur et sans doute l'impression d'être délaissé, que Dieu va s'occuper de lui et s'occuper de nous. Hein? Très souvent, nous aussi, on tombe dans ces remarques. S'il y avait un bon Dieu, ces choses-là aujourd'hui n'arriveraient pas. C'est exactement le même contexte. Le moral est non pas au plus bas, mais le moral est assez bas dans le curseur du cœur du peuple juif. Donc, c'est pour combattre cette désespérance qu'Isaïe, inspiré par Dieu, ose ce texte magnifique que nous avons lu en première lecture. Oui. Osons le dire, Dieu n'a pas oublié son peuple et sa ville de prédilection devient sa préférée. Alors nous aussi, au fond de notre cœur, dans la relation personnelle que nous avons avec le Christ, nous sommes ses préférés. Heureux sommes-nous d'être invités tout à l'heure au festin des noces de l'agneau. Amen.